Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, nous allons parler à la fois de French Tech et d'industrie. La French Tech tout d'abord, avec la révélation il y a quelques jours du palmarès 2023 du Next 40 et de French Tech 120. Chaque année, ces deux labels sont attribués aux jeunes entreprises les plus prometteuses de l'économie française. Alors, qui sont les nouveaux entrants? Quelles sont les tendances de ce cru 2023? On en parle dans un très court instant. Et on en parlera également avec notre premier invité, Nicolas Banchet, c'est le directeur général de The Plug. The Plug qui fait son entrée dans le Next 40 après une grosse levée de fonds au mois de septembre dernier. The Plug qui propose des bornes de recharge électrique aux copropriétés et aux entreprises. Et puis dans la seconde partie de l'émission, eh bien nous parlerons donc d'industrie en compagnie de Guillaume Gau qui vient de réaliser pour le think tank Le Millénaire une étude sur les 5 grands projets industriels étrangers que la France ne doit pas rater en 2023 avec à la clé des milliards d'investissements et des milliers d'emplois. C'est donc depuis 2019 un rendez-vous très attendu par la French Tech et par l'économie française en général, la révélation des classements Next 40 et French Tech 120. Ces deux listes, ces deux clubs en quelque sorte, qui rassemblent les startups les plus performantes et les plus prometteuses. Alors le palmarès 2023 a été révélé en début de semaine. Anthony Morel revient pour nous sur ce qu'il faut retenir de ce nouveau cru de Next 40 et du French Tech 120.
11 nouveaux entrants rien que dans le Next 40. Alors il y a deux licornes. Les licornes, elles sont qualifiées automatiquement. EcoVadis, spécialisée dans l'évaluation RSE des entreprises, et NW Storm, qui fabrique des bornes de recharge électrique de nouvelle génération. Et puis 9 startups qui ont levé plus de 100 millions d'euros depuis 2021. On peut citer par exemple Flying Whales, qui conçoit des ballons dirigeables pour le transport du fret. InnovaFeed, qui fabrique de la nourriture, alors pour animaux, mais demain aussi pour humains, à partir d'insectes. Beaucoup d'entreprises dans le domaine et dans l'écosystème des voitures électriques. Electra et The Plug, des opérateurs de stations de recharge. Ou encore Vercors, qui fournit déjà Renault en batterie électrique et qui est en train de construire une gigafactory du côté de Dunkerque. Si on devait retenir quelques lignes de force du cru 2023, gros accent sur le secteur de la transition énergétique, sur les start-up industrielles également, avec cette idée que la French Tech, bah, c'est pas juste des lignes de code et de l'ubérisation, ce sont aussi des entreprises qui vont participer à la réindustrialisation de la France. Pas mal de deep tech également, notamment dans le French Tech 120. On peut citer Iten par exemple, qui veut remplacer les piles boutons par des micro-batteries au lithium, ou encore Prophecy, qui a mis au point un système de vision électronique absolument révolutionnaire.
Et l'autre enseignement, Anthony, c'est qu'en 10 ans d'existence, ces entreprises de la French Tech ont pris un poids non négligeable dans l'économie française et surtout, elles sont entrées dans notre quotidien.
Oui, c'est un peu le message que va essayer de faire passer Emmanuel Macron ce soir face à cet écosystème de la French Tech. Sortir des clichés de la Startup Nation qui serait un peu gadget, un peu futile et qu'on oppose à la vraie économie. D'après l'IFOP, 3 Français sur 5 utilisent au moins une fois par mois un service de la French Tech. On peut citer Doctolib, évidemment, pour prendre des rendez-vous médicaux, on covoiture en BlaBlaCar, on achète des vêtements sur Vestiaire Collectif, ça c'est pour la partie B2C, mais il y a aussi le B2B qui transforme la vie de nos entreprises. Là on peut citer par exemple Miracle qui crée des marketplaces pour les commerçants, Content Square qui optimise le trafic sur les sites de e-commerce, mais aussi des fintechs, des startups spécialisées RH, tout ça mis bout à bout, ça pèse dans l'économie. Si on prend l'ensemble du French Tech 120, ce sont près de 50 000 emplois directs, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À noter aussi que ce sont des entreprises qui continuent d'attirer les investisseurs, 13,5 milliards d'euros levés l'an dernier avec un objectif à 100 licornes d'ici 2030.
Et avant de recevoir Nicolas Banchet, le patron de The Plug, une de ces startups qui vient d'entrer dans le Next 40, on va écouter Clara Chapaz, c'est la directrice de la mission French Tech. Stéphanie Collot et Christophe Jacubizine lui ont demandé si ces startups étaient in fine des entreprises solides et durables après une année 2022 globalement un peu difficile tout de même pour l'économie française.
Les grandes tendances qu'on voit, c'est déjà des entreprises solides. On est sur une année 2022 qui a été une année un peu plus compliquée, ouais, pour l'ensemble de l'économie.
Mais pas trop pour la French Tech.
Et pourtant, ouais, On voit une augmentation du chiffre d'affaires qui passe pour la première fois la barre des 10 milliards d'euros, 11,3 exactement. Donc c'est vraiment un pan entier de l'économie. Et aussi au niveau des emplois, avec près de 25% d'emplois supplémentaires sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021. Donc un écosystème très solide.
Une French Tech solide, hein, vous l'avez dit, vous l'avez démontré. Elle a levé 13,5 milliards d'euros l'année dernière, un nouveau record, même si c'est vrai que les levées de fonds ont tendance à s'essouffler un peu depuis l'été dernier. Est-ce que ça veut dire que vous sentez, vous aussi, dès à présent, des coups de frein sur l'investissement? Vous vous attendez à des coupes dans les effectifs? Back Market a commencé, ils ont licencié 13% des effectifs. Est-ce que voilà, il faut s'attendre à aussi une vague de licenciements comme on connaît dans la tech américaine aujourd'hui?
En 2022, c'est sûr, le contexte a changé, le contexte est plus difficile. Comme tout le reste de l'économie, l'écosystème French Tech est impacté.
Les investisseurs demandent plus de solidité.
Plus de solidité et un regard plus fort porté sur la rentabilité. Donc, qui dit rentabilité dit en effet réflexion sur la façon d'utiliser ces financements, et donc l'emploi peut être concerné. Mais il y aura, je pense, et il faut se le rappeler, ces entreprises de la French Tech, ce sont des entreprises innovantes. Et pour innover, on prend des risques. On prend des risques, c'est d'ailleurs le métier des investisseurs en capital risque, c'est de prendre des risques. Donc il y aura des entreprises qui ne vont pas aller dans une trajectoire toujours haussière. Mais il y a aussi, et je pense particulièrement en France, une catégorie d'entreprises très solides qui continuent d'employer, qui continuent de se développer et qui ressortiront, je pense, encore plus solides de cette crise. En tout cas, c'est notre ambition de pouvoir les soutenir, parce qu'au moment où il va falloir accélérer, il faut qu'on soit prêt.
Et voilà précisément une entreprise qui va et qui a envie d'accélérer. Bonjour Nicolas Bancher.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes le directeur général de The Plug, une de ces entrantes dans le Next 40. Alors il y avait deux critères pour entrer dans le Next 40, soit être devenu une licorne en 2022, soit une levée de fonds supérieure à 100 millions d'euros. C'était votre cas, vous c'était une levée de 240 millions au mois de septembre. C'était un gros gap, un gros pas dans la vie de The Plug qui a été créé en 2014.
Oui, c'était une étape importante qui nous donne aujourd'hui les moyens d'accélérer en France et à l'international.
On parlera du développement et de l'accélération. D'abord, rappelez-nous le concept. On est là dans un domaine très tendance. Il y a eu beaucoup de start-up dans le domaine de la transition écologique, dans ce Next 40 et ce French Tech 120. Vous produisez des bornes de recharge pour les véhicules, à la fois les particuliers et les entreprises. Rappelez-nous votre concept.
Oui, on déploie des bornes de recharge dans les immeubles collectifs, donc les copropriétés, et les immeubles de bureaux. La particularité de notre modèle, c'est que c'est nous qui investissons dans l'infrastructure. Il n'y a pas de budget à faire voter au niveau de la copropriété ou de l'immeuble de bureau, ce qui est le plus important. Et on fournit ensuite le service aux personnes qui souhaitent bénéficier d'une borne de recharge sur leur place de parking.
C'est le même modèle un peu que la fibre. On a un des opérateurs qui vient s'installer dans un immeuble et ensuite se raccorde qui le souhaite.
C'est exactement le même modèle, oui.
Ça coûte combien pour ceux justement qui souhaitent ce raccordement?
Alors le prix de revient net de la borne elle-même sur la place de parking, c'est de l'ordre de 500 euros après déduction des subventions. Et ensuite l'utilisateur paye un abonnement qui va entre 20 et 40 euros pour la plupart des utilisateurs. Ça peut être plus pour les très gros rouleurs.
Donc évidemment, vous, ce qui compte, c'est qu'il y ait le plus d'utilisateurs qui se plug, qui utilisent The Plug, voilà. Et comment vous évangélisez? C'est compliqué, c'est important, voilà, cette évangélisation.
Alors on essaie de communiquer effectivement dans la copropriété pour leur dire qu'il n'y a plus de frein au passage à l'électrique. On travaille aussi beaucoup avec les constructeurs automobiles pour être présents dès l'achat du véhicule, pour que les clients soient accompagnés sur la solution de recharge qui veulent bénéficier une fois qu'ils ont le véhicule.
Et vous avez donc un partenariat avec une vingtaine de marques de constructeurs automobiles, voilà, pour que dès qu'on l'achète, on ait aussi la possibilité, l'option, la case à cocher pour rejoindre The Plug. Hein,
exactement, on est intégré à leur parcours client, on s'adapte à leur manière de parler et de s'adresser à leurs clients. Si vous prenez quelques sites de marques automobiles françaises ou étrangères, The Plug apparaît comme une option à cocher dans la configuration du véhicule.
L'autre marché, c'est celui des entreprises. Vous êtes aussi de plus en plus présent dans les entreprises. Combien de bornes sont installées à l'heure actuelle dans les entreprises françaises?
On a plus de 2000 bornes aujourd'hui et on a surtout beaucoup de bornes qui sont en attente d'installation. Donc c'est vrai qu'on a une nette accélération qui est due notamment à l'obligation qu'ont les entreprises de migrer leur flotte de véhicules progressivement à l'électrique. Donc c'est vrai que ça crée une impulsion très forte et une incitation à déployer des solutions de recharge.
Et pour vous, là, c'est pas le même modèle économique parce que, en fait, vous vendez quelque chose et quel que soit le nombre de clients, enfin de salariés, en fait. Donc, c'est pas le même modèle économique.
Alors, le modèle est comparable. Donc, on va toujours investir dans l'infrastructure. La différence, c'est que les entreprises vont déployer les bornes par grappe. Donc, on n'est pas borne par borne. On est plutôt sur 10 bornes, 20 bornes, 50 bornes, en fonction de la taille de la flotte qu'il va falloir recharger.
Vous me parliez de 2000 bornes en entreprise, d'autres en cours. On n'a pas parlé du nombre de copros équipés à l'heure actuelle. Combien ?
Alors, aujourd'hui, on a 10 000 immeubles qui ont fait le choix de la solution The Plug partout en France. Ça représente quasiment 1 million de places de parking qui sont soit déjà équipées, soit qui peuvent être équipés demain lorsque l'utilisateur souhaitera bénéficier de la solution de recharge.
Sur votre même modèle économique, est-ce qu'il y a de la concurrence en France? Je crois que du coup, vous avez racheté celui qui était votre concurrent en direct, Borne Solutions, à l'occasion de la levée de fonds de septembre 2022.
Effectivement, il y a une intégration, un rapprochement avec Borne Solutions, ce qui nous permet de consolider des positions qui étaient complémentaires. On était The Plug très présent historiquement dans les grandes villes. Borne Solutions avait fait le choix de se déployer davantage sur l'ensemble du territoire, donc il y a une vraie complémentarité.
L'expansion, ça passe aussi par l'internationalisation. Vous êtes déjà présent via une équipe aux États-Unis. Racontez-nous ce début d'aventure américaine et puis ensuite l'expansion qui est prévue plus du côté du continent européen.
Oui, alors on n'a pas choisi le plus simple en allant commencer notre déploiement international par les États-Unis, mais il se trouve que le marché est légèrement moins mature que le marché français en termes de développement du véhicule électrique. Mmh. Et puis on a exactement les mêmes problématiques, des immeubles résidentiels ou des immeubles de bureaux qui n'ont pas envie de payer, de financer eux-mêmes le déploiement d'infrastructures et donc qui font appel à The Plug pour déployer une solution et proposer le service à l'ensemble des personnes qui souhaitent recharger leur véhicule.
Vous avez une quinzaine de personnes sur place qui fait quoi, du commercial essentiellement?
Alors du commercial et puis de la gestion de projet. Donc on a des ingénieurs qui vont accompagner le déploiement des infrastructures dans les immeubles.
Vos objectifs chiffrés aux États-Unis dans les prochains mois, c'est combien de bornes installées?
Alors pour l'instant on est assez humble, on est en train de se positionner sur le marché, mais le marché est évidemment gigantesque. On a identifié une quinzaine d'états prioritaires dans lesquels on veut vraiment se déployer très vite, donc on sera rapidement au-delà du millier de bornes déployées.
Et l'Europe, donc d'ici quelques temps aussi?
Oui, l'Europe arrive là 2023, ça fait partie des priorités. On a ciblé le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne et l'Italie, qui sont des marchés assez similaires au marché français. Dans certains pays comme l'Allemagne ou l'Espagne, on a même davantage de personnes qui habitent en copropriété. On est plutôt de l'ordre de 60-70%, là où en France on est à 30-35%. Et donc c'est autant d'opportunités pour le modèle de The Plug.
Un mot peut-être aussi sur l'importance de cette labellisation du Next 40. Vous êtes une dizaine de sociétés à l'intégrer. C'est important, ce label, ça vous aide en quoi? C'est que de l'image ou c'est vraiment de la concrétisation business in fine?
Alors c'est d'abord de la visibilité, ça évidemment on en a besoin pour continuer à faire connaître notre service. C'est aussi de l'accompagnement de la part de la mission French Tech pour nous aider à nous développer, que ce soit en France et à l'international, et ça a évidemment beaucoup de valeur pour The Plug dans cette phase de croissance importante.
La croissance, ça passe aussi par des recrutements. Vous avez du mal à recruter comme d'autres secteurs, ou est-ce que finalement l'attractivité de votre marque et du secteur de la transition énergétique vous aide beaucoup?
Alors oui, il y a une grosse concurrence aujourd'hui pour avoir les meilleurs talents. La réalité, en effet, c'est qu'en étant une start-up qui se développe vite dans un secteur qui attire, on a une capacité effectivement à attirer les personnes qui viennent tout à la fois pour le job qu'on leur propose et aussi pour leur contribution au sujet de transition énergétique.
Et en 10 secondes, enfin, vraiment, l'objectif suprême, c'est d'être une licorne, une des nouvelles licornes françaises?
Alors, c'est pas l'objectif suprême, mais oui, c'est toujours un jalon important, on n'en est plus très loin. Mais l'objectif, c'est surtout d'accompagner cette mobilité durable dont on a tant besoin pour l'avenir.
Eh bien, c'est ce que l'on vous souhaite, licorne ou pas. Donc, bravo à The Plug et bravo pour votre intégration dans le Next 40. Nicolas Banchet, directeur général de The Plug. Et après, donc, la French Tech, on va parler, comme on l'avait dit, dans l'industrie française, sujet que l'on aime aborder très régulièrement dans cette émission. La part de l'industrie dans l'économie en France est une des plus faibles d'Europe et pourtant, depuis quelques années, des mots comme réindustrialiser ou relocaliser ne sont plus des gros mots. BPI France est d'ailleurs un des acteurs publics qui soutient ce mouvement. Nicolas Dufour, que son directeur général était notre invité il y a quelques jours à l'occasion du renouvellement pour un troisième mandat à la tête de la Banque publique d'investissement. Il a répondu aux questions d'Edwige Chevrillon.
La réindustrialisation, vous voyez bien qu'on est passé de 11% à 9%. Hein, donc
On est passé de 10% à 9,7%. Ouais. Bon, ouais. Donc oui, mais c'est extrêmement fragile. Hein. Ouais. Les vents contraires sont importants. Le combat mondial, il est féroce. Le combat européen est féroce, puisque tout le monde veut réindustrialiser en même temps. Ouais. Hein, on parlera peut-être de l'IRA, d'ailleurs. Ouais. Mais la possibilité de réindustrialisation, elle est là. Hein, on a un flux de dossiers entrants d'entrepreneurs qui veulent monter les usines qui est très important. Pour réindustrialiser la France, il faut quatre choses, très rapidement. Il faut des cathédrales, c'est-à-dire des nouvelles très grandes usines. C'est ce que le président de la République a annoncé en juillet à Grenoble avec ST Microelectronics. C'est les gigafactories de batteries, les gigafactories d'hydrogène dans lesquelles il y a beaucoup d'argent public, sinon elles ne s'installeraient pas. Ensuite, il faut que les PME, qui ont toutes des beaux projets dans les cartons, les mettent en œuvre. Hein, et donc ça c'est notre rôle de les mettre en transition par l'innovation. Les PME elles-mêmes ouvrent des usines, font des extensions. Ensuite il faut que le pays soit attractif, il se trouve qu'il l'est plutôt pas mal, et qu'on attire des usines de partenaires étrangers qui s'installent en France ou qui font des extensions sur leurs usines déjà existantes. Et enfin le dernier point qui est le gros sujet de l'année 2022, c'est ce qu'on appelle les start-up industrielles. Ouais. Donc ça c'est magnifique à voir honnêtement, hein. C'est toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui viennent de ce qu'on appelle la deep tech, hein, c'est-à-dire ils font pas que du digital. Ils fabriquent, ils inventent des objets complexes et à la question pourquoi pas les fabriquer en France, ils répondent oui. Et ils viennent nous chercher pour qu'on les finance et qu'on fasse monter des usines. Rien qu'en 2022, on a eu 75 projets de cette nature-là. Et notre objectif, dans le plan qu'on a annoncé, c'est de engendrer 100 nouvelles usines de plus que le flux naturel par an en France.
Bonjour Guillaume Gau.
Bonjour.
Et merci d'être l'invité de La France à tout pour réussir. On va donc parler avec vous de cette nécessité pour la France de poursuivre sa réindustrialisation. Vous êtes vous-même cadre dans l'industrie et l'auteur d'une étude intitulée « Méga-usines, 5 grandes implantations industrielles que la France ne doit pas rater en 2023 ». On va en parler dans un instant, mais tout d'abord une réaction à ce que vient de dire Nicolas Dufour, le directeur général de BPI France, sur les clés, les points forts pour qu'on arrive justement à cette réindustrialisation. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours, entre autres sur les cathédrales, les méga-usines.
Oui, il a bien résumé les enjeux, essayer d'attirer les grandes implantations industrielles et ensuite en parallèle essayer de développer le tissu industriel existant avec des subventions à l'investissement et également en poussant l'innovation avec les start-up industrielles. Donc voilà, jouer sur tous les tableaux pour réindustrialiser le pays. Donc c'est assez bien résumé.
Alors on en vient donc à cette étude que vous publiez au nom du millénaire. Rappelez-nous d'ailleurs ce qu'est le millénaire. Sur le site, on trouve cette phrase que je trouve très intéressante. C'est un think tank gaulliste réformateur guidé par l'intérêt national. Nous nous appliquons à proposer des politiques publiques pour remettre la France sur le chemin de la grandeur. Vaste programme, comme aurait dit le général.
Vaste programme. Oui, le millénaire, il va travailler sur les questions économiques, sur les questions de souveraineté industrielle et également sur les questions scientifiques. Il y a aussi un aspect analyse politique de l'évolution politique des différents pays en Europe avec une vision assez gaulliste qui travaille sur les questions de souveraineté, d'innovation.
Et cette vision gaulliste ou gaullienne, est-ce qu'elle manque un peu à nos politiques, cette vision des grands projets, cette vision de la stratégie, peut-être même un retour du plan, même si on a un commissaire au plan, mais on l'entend peu. Mais est-ce que vous diriez que c'est un peu ce qui manque à la stratégie de la France depuis quelques décennies?
Oui, et à la fois il y a un certain retour à cette planification, à ces grands projets industriels. On commence à s'inspirer de projets qui ont appliqué cette stratégie, de pays qui ont appliqué cette stratégie, comme la Corée du Sud. Donc oui, je trouve que depuis quelques années, il y a quand même un retour à la politique industrielle assez forte, et c'est très positif.
Alors, ces cinq projets dont vous parlez dans votre rapport, ces cinq projets à ne pas rater, vous les avez donc identifiés et listés. On en parle dans un instant, mais tout d'abord, Nathan Cocampo nous les présente.
5 projets de méga-usines pourraient voir le jour en France cette année. Des projets supérieurs à 500 millions d'euros qui attendent encore une décision finale quant au choix du pays européen pour s'implanter. Premier projet, celui de Moderna. L'entreprise américaine est en discussion avec plusieurs gouvernements pour implanter une usine de vaccins sur le continent. Et la France est au cœur de cette discussion. Un investissement d'un milliard d'euros, crucial pour la souveraineté française dans le domaine des vaccins. Côté batterie, Prologium, fabricant taïwanais, souhaite lui aussi implanter une méga-usine en Europe. Une usine de 48 gigawattheures pour un investissement de 4,5 milliards d'euros. Trois pays sont encore en lice, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. La localisation pourrait être Dunkerque, de quoi consolider la vallée de la batterie en formation dans le nord du pays. La décision sera prise cet été. Côté constructeur, deux projets industriels potentiels pour la France. Celui du Vietnamien VinFast, qui veut construire une usine européenne ayant une capacité de 250 000 véhicules annuels pour un investissement de 2 milliards de dollars. Et le chinois BYD qui devrait passer dans les prochains mois devant Tesla en tant que premier constructeur de voitures électriques et qui souhaite construire deux usines en Europe. Enfin, dernier projet de méga-usine que la France aimerait rafler, Samsung Electronics, géant de puces qui envisage de construire une fonderie en Europe selon un quotidien économique coréen. 5 projets pour un total de 25 milliards d'euros d'investissement potentiel, 12 000 emplois sont en jeu.
Bien voilà, Guillaume Gau, ce n'est pas rien. 25 milliards d'investissements potentiels, 12 000 emplois en jeu. Sur ces 5 projets que vient de nous détailler Nathan Cocampo, est-ce qu'on les aura tous, selon vous? Est-ce qu'il y en a où on a peut-être un peu plus de chance?
Alors, ça serait vraiment un exploit de tous les avoir, mais je pense qu'on a eu de bonnes chances sur peut-être 2 projets. Le premier, c'est Prologium, donc c'est une entreprise taïwanaise qui fait des batteries nouvelle génération, des batteries solides. Donc le vice-président est français et qui a dit que s'il faisait l'usine en Europe, ce serait à Dunkerque. Donc la France est en compétition avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Et donc ce serait vraiment un très gros projet. On parle de 4 milliards d'investissements et 5 000 emplois.
Et dans la fameuse vallée de la batterie dont on parle souvent d'ailleurs dans cette émission avec Envision, avec ACC, etc. L'autre projet sur lequel vous êtes plutôt confiant ou peut-être optimiste?
Alors, je parlais du projet de Moderna.
Et là encore, c'est un Français d'ailleurs qui est à la tête de l'entreprise. Ça compte aussi.
Ça compte, ça peut aider dans les relations directes. Le Moderna a annoncé qu'il était en relation directe avec le président de la République. Donc là, c'est un projet très important pour la souveraineté sanitaire française et européenne. Et donc, ça serait un projet d'environ 1 milliard d'euros et 200 emplois à créer. Donc pour produire des vaccins et autres technologies.
Et sur les 3 autres projets, VinFast, BYD et Samsung Electronics, vous êtes un peu moins confiant ou est-ce que tout est jouable encore?
Tout est jouable, c'est plus à long terme. BYD a annoncé, le Wall Street Journal a annoncé que BYD, c'est le futur numéro 1 de la voiture électrique.
Devant Tesla,
à terme. Ils vont sûrement passer devant Tesla dans les prochains mois. Mm-hmm. Et donc le Wall Street Journal a révélé qu'ils avaient un projet d'usine en Allemagne. Ils rachèteraient une usine à Ford en Allemagne. Mais ils ont annoncé vouloir faire 2 usines en Europe. Donc peut-être la deuxième pour la France. Ensuite, on a VinFast, oui. qui est un constructeur de voitures électriques vietnamien qui a construit une usine aux États-Unis et qui a annoncé aussi vouloir faire une usine en Europe. Et ensuite Samsung, c'est plus du long terme et on voit que la conjoncture pour les semi-conducteurs est en train de baisser.
Mm-hmm.
Donc c'est plus du long terme, mais sur donc c'est 3 projets asiatiques qui auraient un gros impact.
Outre ces projets, si vous deviez identifier les points forts et les points faibles de la France en matière d'attractivité pour ces grands groupes étrangers.
Déjà, je trouve que dans les dernières années, il y a eu une baisse des impôts de production, donc ça compte. Il y a également le fait qu'il y a eu la mise en place de terrains clés en main, c'est-à-dire de terrains où les usines peuvent venir et toutes les autorisations sont déjà délivrées. Ensuite, que faire pour améliorer ? Il y a vraiment les délais d'implantation. Donc, Bruno Le Maire disait que les délais moyens pour faire une usine en France, c'est 17 mois. Et en Allemagne, c'est encore 8 mois.
Et qu'est-ce qui explique ça? C'est la lourdeur administrative, cette fameuse lourdeur administrative, ou est-ce que c'est plus complexe que ça?
Il y a des délais d'autorisation environnementale, des choses qu'on pourrait, au lieu de les faire à la suite, les paralléliser, faire tous ces processus administratifs en même temps pour réduire leur durée globale.
Et c'est pour ça qu'on a raté de gros projets. On a parlé de l'usine Tesla qui a choisi l'Allemagne, etc. Est-ce que ça fait partie des motifs d'échec des grands projets que l'on a ratés en France?
Oui, alors il y a un point d'abord, c'est que tous les facteurs ne sont pas dans la main des gouvernements. Par exemple, je pense à Tesla qui voulait faire son usine en Allemagne parce que voilà, Elon Musk voulait aussi avoir l'image allemande. Ouais. Mais il y a des facteurs clés pour attirer l'usine qui sont dans nos mains. Et donc, par exemple, sur Intel et Tesla, il y a les questions des délais, la question de grands terrains disponibles rapidement. Et donc, là, la France n'a pas été la meilleure. L'Allemagne a été plus efficace. Donc.
Et puis, vous le dites, les projets en France sont moins créateurs d'emplois et ce sont souvent des extensions de sites. En fait, on a l'impression dans l'industrie que c'est le même problème que pour le tourisme. On attire du monde, mais ils ne dépensent pas assez. C'est un petit peu la même logique.
Hein. C'est vrai. Ça vient d'une étude de EY sur l'attractivité qui montre que la France est le pays qui attire le plus d'implantations industrielles, mais ces projets sont plus petits et créent moins d'emplois que l'Angleterre ou l'Allemagne. Donc il y a un vrai sujet sur les gros sites industriels.
Il nous reste une minute pour parler des raisons d'espérer quand même. Il va y avoir en Europe un plan massif de soutien à l'industrie verte. Alors on ne sait pas encore si ça va être des subventions directes ou est-ce que c'est des prolongations, des renouvellements de plans qui existent déjà. Est-ce que c'est une source d'espérance, ce côté subvention européenne qui semble arriver pour contrer un petit peu l'IRA américain?
Exactement. Donc la question de la subvention est vraiment importante. On voit que certains projets vont aux États-Unis à cause des subventions mises en place par les États-Unis. Ensuite, il y a un aspect plus national aussi, qui est la loi industrie verte qui doit être votée cet été, et qui est justement l'opportunité pour la France de régler ces problèmes de délais d'implantation, de problèmes réglementaires. C'est une opportunité idéale.
On l'a dit en un mot, donc voilà, on est souvent dans les classements européens, on va avoir une carte d'Europe, voilà, on est en deçà pour la part de l'industrie dans l'économie, on est je crois à 16,8 sur les chiffres qui sont dans votre rapport contre une moyenne européenne de 23. Vous êtes confiant dans ce rattrapage nécessaire de l'économie française sur ce point seul de l'industrie?
Oui, je suis confiant. Si on arrive à mettre en place ces mesures, je suis assez confiant. Et pour moi, la part des implantations étrangères est vraiment importante. Et je pense par exemple à Toyota. Toyota qui est aujourd'hui, qui est devenue cette année la première usine de production automobile de France. Donc Toyota s'est implantée il y a 20 ans à Valenciennes. Donc oui, ces implantations étrangères sont vraiment importantes pour réindustrialiser.
On va rester sur cette note d'optimisme. On rappelle que cette note, on la retrouve, la note que vous avez faite donc sur les 5 mégaprojets d'usine à ne pas rater en 2023 est téléchargeable sur le site du Millénaire. Okay. Merci beaucoup Guillaume Gaud d'avoir été l'invité de La France à tout pour réussir. Émission diffusée en télé, en radio le vendredi à 14h30, le samedi à midi, le dimanche à 15h30 et bien sûr sur tous les supports digitaux qui diffusent BFM Business. La semaine prochaine, une émission spéciale. Nous serons au Salon d'Agriculture qui ouvre ses portes ce samedi et jusqu'au dimanche 5 mars. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.